beaucoup. Alors, merci aux organisateurs de cette journée particulièrement stimulante. Et puis à Delphine, évidemment, dont le texte m'a inspiré quelques réflexions que je vais vous livrer ici. Bon, alors, premièrement, il me semble que c'était beaucoup plus, peut-être plus repérable dans le texte que dans l'intervention. Mais tant pis, je prends la liberté de me référer plus au texte. Il me semble intéressant de discuter la notion de mobilité à partir de l'idée selon laquelle, et là je cite Delphine, « au-delà des différentes formes de mobilité des familles, nous nous trouvons en présence de situations et de parcours scolaires instables. » Nous pourrions parler de nomadisme scolaire, elle l'a très bien rappelé là, hein, marqué par des discontinuités et des ruptures où les errances institutionnelles sont aussi à interroger. Et alors là, vraiment, cette phrase autour de la mobilité, enfin, c'est cette question de la mobilité qui non seulement est citée, évidemment, puisque le terme est employé, mais qui est aussi présente dans tout ce vocabulaire autour de la discontinuité, de la rupture, mais aussi de l'errance institutionnelle, c'est un point qui m'a semblé particulièrement fort à une époque qui, comme vous n'ignorez pas, valorise et promeut la mobilité, l'hypermobilité, la mobilité généralisée, pour reprendre les travaux de différents chercheurs. Est-ce que, effectivement, ça n'est pas intéressant de s'intéresser, est-ce que ça n'est pas intéressant d'approcher l'une de ces figures archétypales de la mobilité, celle des familles roms migrantes, au prisme des questions migratoires, d'une part, et de ces approches de la mobilité. Alors, effectivement, ce sont bien, comme l'a précisé Delphine dans son texte, des formes plurielles de mobilité qu'il faudrait considérer et autour desquelles on peut discuter. Viaviorca mentionne, par exemple, que si la mobilité avait un sens, c'est-à-dire celui qu'il inscrivait au sein d'une société, d'un état-nation, d'un groupe, avec les mobilités ascendantes, descendantes dans le groupe en particulier, aujourd'hui, bien évidemment, ça n'est plus une seule question sociale et une question interne, c'est bien une question globale. Des auteurs comme Kaufmann, Vincent, pour le différencier de Jean-Claude, pensent la mobilité géographique comme une forme de capital. Et là, finalement, est-ce qu'on a affaire à cette forme de mobilité? C'est une question qu'on peut poser peut-être en attirant un petit peu, hein, j'en conviens. Est-ce qu'on aurait ou est-ce qu'on pourrait avoir affaire à cette forme de mobilité lorsque l'on aborde les Roms migrants ou la question des migrations dans le contexte que nous décrit Delphine? Alors, j'ai également repris des éléments du texte que tu nous as envoyé. Et évidemment, il m'a semblé que les formes de mobilité pouvaient être considérées dans leur rapport à la migration, pour te reprendre, comme des modes de passage d'un lieu à un autre, tenant compte, toujours pour vous citer, des dimensions spatiales, temporelles, identitaires, où les frontières ne semblent pas si marquées. Alors, moi, j'interrogerais ça. Est-ce que les frontières ne semblent pas si marquées? Et d'autre part, peut-être ajouter une dimension à ces dimensions spatiales, temporelles et identitaires, celle des dimensions cognitives. Ça m'a conduite à relire un texte d'Ogbu qui différenciait au sein des minorités, les minorités, alors la catégorie est proposée par Ogbu, hein, là je prends mes précautions, donc, qui différenciait les minorités volontaires concernées par les mobilités, par la volonté de se déplacer, des minorités involontaires. Autrement dit, les castes-like, les minorités telles des castes ou semblables à des castes, déplacées du fait de l'esclavage, de la colonisation, des conquêtes de territoire, des modes de vie, comme ici, hein, des normes sociales aussi, on pourrait dire, ici. Et concernant les Roms, on peut considérer que le déplacement de ces minorités involontaires, placées aux marges, dans des espaces relégués, comme le décrit très bien Delphine, la recherche le documente avec précision, eh bien, ces minorités involontaires sont enserrées dans une espèce de mobilité à double face. D'une part, le versant d'une mobilité de tradition, qui est ici remise, réinterrogée, questionnée finalement, hein, cette mobilité de tradition est questionnée par la présence depuis plusieurs années, le processus de sédentarisation. Hein. Donc le versant d'une mobilité de tradition auquel il pourrait bien être assigné, en tout cas dans les représentations, et d'autre part, les figures de ces nouvelles mobilités, les nouvelles mobilités des sociétés postmodernes et hypermodernes même, pourquoi pas, décrites par des chercheurs tels que Uri, ou tels que Apadurai aussi, qui abordent cette question des mobilités sous un autre angle, celui de la globalisation. Et ça n'est pas inintéressant, mais il faut que je me dépêche pour en arriver là. Donc, pour arriver au lien qu'il me semble intéressant de faire. Alors, Ogbu disait que l'intégration est souvent refusée aux minorités involontaires. Et il dégageait des traits caractéristiques, bon, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, des traits caractéristiques qui, en particulier, pouvaient émerger, ou en tout cas se conforter par réaction au traitement discriminatoire, à la fois politique, économique, social, dont ces minorités sont l'objet. Et quand on entend les résultats, les premiers résultats de cette recherche, il me semble que ce traitement discriminatoire souligne et est souligné. Hein, de fait, par exemple, on peut se poser la question de l'accès au logement pour des personnes sédentarisées ou en voie de sédentarisation, qui utilisent le CHU, comme le dit Delphine, non plus du tout comme un hébergement d'urgence, mais comme un lieu de vie, finalement. Hein, donc, du coup, comment ces questions de discrimination, comment ne pas les poser sous les formes d'un racisme d'institution. Les institutions et ces acteurs sont partie prenante de pratiques qui, par euphémisation, sont qualifiées de discriminantes, discriminatoires ou de discrimination, alors qu'elles pourraient bien être identifiées comme des manifestations d'un racisme d'institution. Et ici, comme le mentionne Didier Fassin dans un texte où il analyse la reconnaissance tardive de la nomination des discriminations en France, le langage, y compris des chercheurs, dit-il, peut être complètement décalé par rapport à la réalité qu'il prétend décrire et devient ainsi non plus un instrument de l'analyse, mais ce qui la rend quasiment impossible. Et effectivement, la tendance de focaliser la question du racisme, comme par hasard, un peu, hein, autour de pratiques sociales interindividuelles et d'occulter certains des actes et décisions d'organisation des institutions, doit peut-être nous interroger. Hein. Ces errances institutionnelles, que tu repères très bien, ces éléments de discontinuité, ne seraient-elles pas les stigmates de ce racisme d'institution, d'autant moins visible et lisible qu'il s'inscrit dans des pratiques discursives organisées, relayées par des acteurs d'institutions, par des textes. On voit assez régulièrement la Commission nationale consultative des droits de l'homme rappeler à l'ordre la France à ce propos, hein, d'ailleurs. Et ce racisme d'institution s'est manifesté à différentes reprises, en 2008 par exemple, autour du discours de Grenoble. Alors, dans ce contexte qui disloque un peu l'intelligibilité du social, notamment lorsqu'il attribue les tendances racistes ou l'effet de racisme au milieu populaire, comment rendre audible, mettre en lumière, stimuler les ressources des plus discriminés, sans les réduire au rang de subalternes, pour reprendre un terme de Spivak, une chercheure indienne-américaine. Delphine a accordé une place centrale à la question de la scolarité, et c'est pourquoi je vais aussi y revenir, toujours à partir de la réflexion d'Ogbu, qui constatait que par rapport à l'école, justement, le processus de scolarisation des minorités involontaires était probablement fortement mis à mal. Le processus d'opposition non seulement touchait les jeunes noirs, puisque c'est à ce groupe qu'il s'est intéressé particulièrement, enclin à associer le fait d'adopter les normes et les activités scolaires comme des façons de jouer au blanc, hein, je mets des guillemets, c'est en italique, mais je mets des guillemets, bon. Les comportements et les apprentissages scolaires sont considérés ou interprétés consciemment ou non comme une menace pour la propre culture, l'identité, le langage. Et de fait, là, une question très très forte est liée à la famille, dont on voit bien la difficulté à être reconnue comme dans leur position éducative, dans sa position éducative, alors que, historiquement, l'école a été envisagée par les pouvoirs publics comme étant la seule capable d'éduquer les enfants, nous dit Delphine. Alors, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent lorsqu'on aborde les questions des migrations sous l'angle des mobilités et de la globalisation ? Peut-on en particulier examiner approcher la scolarité à partir de cette notion de mobilité? Le jeu de l'école peut-il se trouver transformé, par exemple? Alors, je me référerai ici à la proposition d'Abadoural qui brosse les paysages de la mondialisation, en particulier pour en faire apparaître les ressorts. Notamment parce que dans ce monde globalisé, la lutte pour la reconnaissance passe par la tentative mettre en valeur, mettre en lumière les identités. Et il s'agit là d'une forme de résistance qui permette de déboucher sur des visibilités. Visibilité qui rend possible la requalification d'identités discréditées, qui permettent, enfin ça offre cette possibilité peut-être, aux minorisés de s'approprier, se réapproprier ou déconstruire pour les reconstruire les catégories que le rapport de domination a édifiées. Alors, un exemple est donné, plusieurs exemples peuvent être donnés, mais actuellement il me semble que un exemple tout à fait intéressant concerne la littérature romani. Bon, ça pourrait être la musique aussi, hein, bien entendu, mais la littérature romani qui exprime finalement haut et fort, hein, la capacité à parler des Roms, d'une culture qui n'a rien d'homogène. Delphine a souligné à plusieurs reprises cette question. Une culture qui, d'une certaine manière, s'oppose à la représentation homogène par l'autre, c'est-à-dire ceux qui parlent des Roms en lieu et place d'eux, grâce au processus de découverte et de reconquête de des manifestations culturelles ces différentes formes. Alors, on retrouve ici en quelque sorte une réponse démultipliée à la question posée par Spivak, qui a écrit un court essai sur, qui a été traduit à plusieurs reprises parce que la traduction s'est avérée difficile et délicate, hein, puisqu'on est vraiment sur des questions de passage entre les théories et des théories post-coloniales hein, qui supposent des références à l'histoire des colonisations complexes, dans le sens là en tout cas où il s'agissait non seulement de passer de l'Indien, enfin de l'histoire de l'Inde à la langue anglaise puis à la langue française. Donc l'écrit de Spivak a été traduit à plusieurs reprises, intitulé « Les subalternes peuvent-elles parler ?» la question qui était posée là, c'est « Est-on condamné à être parlé par d'autres ?» Donc, pour aller vite, hein, je me réfère ici bien sûr à la proposition des théoriciens postcoloniaux qui postulent la capacité des minorités à rompre avec le discours monologique grandement associé aux sphères du pouvoir, avec une description homogène, fermée et fixe des cultures, pour rendre compte des branchements entre les cultures, des identités hybrides et décentrées. Bon, alors je n'irai peut-être pas plus loin, mais en conclusion, il me semble intéressant de revenir sur une dernière question posée dans le texte d'introduction de cette journée. La question des mobilités intervient-elle dans l'épistémologie de la recherche ? Il me semble que dans l'étude que nous a présentée Delphine, on voit des ruptures épistémologiques. Comment les ruptures épistémologiques peuvent être introduites, abordées ou intégrées ? Si on considère que la mobilité, ce n'est pas seulement le monde réel qui est en mouvement, c'est aussi le monde théorique et la manière d'analyser certains paradigmes, on voit combien dans ce groupe, dans cet espace qui est le terrain d'enquête, donc qui suppose une entrée localisée, voire circonscrite, eh bien l'approche de l'intérieur montre ou pourrait montrer, si Delphine avait eu la possibilité ou le temps, ou peut-être l'année prochaine aura-t-elle plus d'éléments à ce propos, ce terrain d'enquête-là, de l'intérieur, il nous montre des processus de globalisation en tant que dépassement des frontières et fluidité des appartenances pour l'ensemble des individus. Je m'arrêterai là, sauf que, je reviens quand même, je peux, juste pour faire écho à certaines contributions de la matinée, évidemment, cela suppose, et cette dimension intègre aussi, comme on le voit, des processus plus participatifs et collaboratifs, pour intégrer la voix des acteurs faibles, pour reprendre l'expression de Payet, que Delphine met en avant quand, dans la méthodologie, elle intègre, par exemple, les enfants. Voilà, je vous remercie.